podcast que vous allez écouter prend place dans le cadre de l'exposition Reclaim Architecture. Une exposition qui propose de mettre en lumière la longue histoire des pensées féministes et décoloniales en architecture. L'interview est celle d'Anis et de Nesma Meroum. Anis est architecte urbaniste et Nesma travaille dans le milieu de l'édition. Avec d'autres, elles coécrivent et coéditent l'ouvrage « Habiter l'indépendance » aux éditions Shed Publishing. L'interview propose de raconter leurs envies, à la fois personnelles et collectives, d'écriture et d'édition, autour de la dimension décoloniale en architecture.
Je m'appelle Anis Merhoum, je suis architecte et urbaniste. Je suis également réalisateur. J'ai cofondé une association qui s'appelle Atelier d'Alger, qui est spécialisée dans la concertation et l'organisation de chantiers d'aménagement participatif d'espaces publics à Alger, mais aussi entre Marseille et Alger dernièrement. Et puis j'ai également participé à l'écriture et la fabrication du livre Habiter l'indépendance. J'ai été contacté par Lydia Amarouche, qui est la fondatrice de Shed Publishing. Elle avait eu comme idée de faire un cycle d'ateliers d'arpentage qui s'appelle Corpus. Et donc elle m'a contacté pour me demander si je voulais, avec elle, animer le premier atelier d'arpentage autour du livre Architecture de la contre-révolution. Armée française dans le nord de l'Algérie, de Samia Henni. Et à la fin de cet atelier, il y a une question qui est restée, qui était qu'en est-il aujourd'hui ? Qu'en est-il aujourd'hui des traces de la colonisation à Alger en particulier, parce que moi, c'est ce que je connais, c'est là où j'ai vécu. Qu'en est-il de cette architecture moderne qui a été construite à des fins de conquête, à des fins de colonisation, et qui a été construite en négation des populations locales, enfin, contre leur existence, parce que l'objectif, c'était d'installer une colonie de peuplement pour que la France s'installe durablement en Algérie. Ça a donné à Lydia la volonté de mettre un cadre à cette recherche et de monter sa maison d'édition, donc Shed Publishing. Et ça a donné aussi comme idée et comme inspiration de lancer ce projet de livre. Donc on a mené déjà plusieurs résidences de recherche, des résidences où on a fait des ateliers d'arpentage, on a écouté des podcasts, on s'est questionné collectivement sur qu'est-ce qu'on voulait que ce soit comme type de livre. Et donc assez vite est venue l'idée de faire un ouvrage collectif avec plusieurs contributions. Des contributions existantes de sociologues, d'architectes qui s'étaient intéressés soit à l'appropriation de l'architecture post-indépendance, soit au mode d'habiter contemporain algérien. Je pense à Jafar Lesbat ou Nora Semoud qui avaient déjà travaillé d'un point de vue scientifique sur ces questions-là. On a très vite eu l'idée d'actualiser des travaux existants. Il y a eu l'idée de produire des nouvelles contributions. Il y avait aussi l'idée de voir un peu comment on pouvait valoriser notre rapport avec Samia Henni et l'intégrer, le lien qu'on avait commencé à construire et la faire participer dans le livre. Et donc, on s'est dit que ce serait bien de faire des entretiens avec elle, enregistrés, qu'on allait retranscrire, qui revenaient sur son travail et ses sujets de recherche et qui aussi annonçaient les questions qui nous intéressaient. Ce qui nous a permis un peu de définir des thématiques, de préciser un peu ce qu'on voulait étudier et tout. Et donc le livre, il est assez protéiforme, disons, assez éclectique, assez riche dans le type de contributions. Donc il y a des nouveaux articles, il y a des articles existants qui ont été réécrits ou réadaptés. Il y a les entretiens avec Samia Henni qui viennent ponctuer l'ouvrage, et il y a aussi le tout premier atelier d'arpentage qui est retranscrit. Voilà un peu comment ça s'est fait. Une fois qu'on a eu l'accord de Samia Henni pour répondre à des entretiens et qu'on s'est mis d'accord sur le fait de faire un ouvrage collectif avec différents types d'écrits, petit à petit, on a chacun a fait son travail. Donc Lydia et Nesma se sont occupés de la direction éditoriale. Je me suis focalisé sur ma contribution avec Redija. Il y a eu aussi la contribution de Magda Maoui, qui est donc la troisième cofondatrice d'Atelier d'Alger, qui... Elle s'est intéressée, a plutôt fait un article qui revient sur notre première expérience d'atelier participatif à la Casbah. il y a vraiment des contributions assez différentes. Et donc, assez vite, au terme des différentes résidences de recherche qu'on a effectuées, chacun a fait a joué son rôle, soit dans l'écriture, soit dans la direction éditoriale, jusqu'à ce que le livre soit terminé. Mais en gros, voilà les différentes étapes.
Je m'appelle Nesma Merhoum, je travaille dans l'édition, j'ai deux casquettes. Je travaille à la relation libraire et à la promotion pour un grand groupe. Et à côté, je fais aussi partie de la maison d'édition indépendante Shed Publishing en tant qu'éditrice et récemment traductrice. J'ai fait un parcours de recherche, mais plutôt que de m'orienter vers une thèse, ce qui m'intéressait dans l'édition, c'était déjà d'avoir l'occasion de travailler sur plusieurs sujets. De manière très intensive, mais plus courte qu'en menant une recherche type thèse, et aussi avec moins de contraintes institutionnelles liées à l'obtention de financement, à la précarité, surtout ces dernières années avec les nouvelles lois sur la recherche. C'est difficile d'obtenir des places. Et puis voilà, là où j'ai fait mes études, je n'ai pas été très épanouie intellectuellement dans le climat de l'école où j'ai fait mes études. Pour moi, l'édition, c'était vraiment un moyen de continuer ses activités très recherche, naviguer en plusieurs sujets, aller au fond, et puis aussi accompagner l'écriture et pousser au plus loin à la réflexion des auteurs et autrices. Moi, c'était le premier ouvrage que j'ai co-dirigé. J'ai travaillé sur beaucoup de livres dans mon travail, mais pas en tant que directrice éditoriale. C'était la première fois. Évidemment que cibler les attentes, déjà comprendre qu'est-ce qu'on attendait de cet ouvrage, c'était un challenge, un enjeu, et on a dû beaucoup s'impliquer en fait, travailler avec les auteurs sur les textes, vraiment les relayer à fond, plus qu'on l'aurait fait dans un ouvrage classique avec un auteur qui a publié déjà, qui est expérimenté, et qui te remet un manuscrit, et là c'était vraiment de la coécriture dans certains cas. Notre volonté, c'est de faire émerger des livres à partir de travail de terrain et de réflexion de terrain qui ont une valeur d'archives, qui sont très documentées, qui sont vraiment des analyses très poussées, très rigoureuses du point de vue des informations. Et nous, c'est qu'on veut montrer à travers ces livres, et Habiter l'indépendance, c'est beaucoup ça, que certaines réflexions les plus originelles, les plus inédites, elles émanent de personnes qui ne sont pas des écrivains professionnels, au contraire. Toute cette capacité d'analyse, elle existe déjà dans ces travaux de terrain, dans ces personnes qui ont peut-être peur de se mesurer à l'exercice de l'écriture, entre guillemets.
Donc, quels ont été les obstacles et les joies de quant à l'écriture de ce livre? Les obstacles, c'était déjà de trouver une légitimité à écrire sur la colonisation en lien avec l'architecture et à écrire depuis mon expérience d'architecte. Se dire que c'est quelque chose qui peut intéresser et qui est valide, ça c'est un des obstacles. De réussir à se le dire. Ça a été un obstacle d'en être persuadé, en tout cas. Assez vite, j'avais du mal à me dire que ce que j'avais à dire pouvait intéresser des gens. Le deuxième obstacle, c'est de réussir à écrire. Il a fallu qu'on mette beaucoup à réécrire des choses et à y mettre un sens plus simple et plus clair et plus radical à mes pensées. C'est sans doute aussi en lien avec la légitimité et le fait que, ne me sentant pas très légitime de dire ce que j'ai à dire, j'essayais de trouver des moyens un peu détournés de les dire, et du coup, c'était pas assez radical. C'est deux obstacles qui sont un peu correspondants, le sentiment d'illégitimité et la difficulté de mettre des mots simples sur des idées, alors que quand je les exprime à l'oral, c'est beaucoup plus simple. Un deuxième obstacle, c'était de réunir des archives et des données, quand il a fallu produire des documents graphiques, que ce soit cartographiques ou des plans. C'était assez difficile de trouver des archives sur Alger. Donc moi, je me suis basé sur les recherches que j'avais effectuées à l'époque pendant ma licence Et pendant mon master sur Alger, j'ai eu la présence d'esprit de scanner beaucoup de choses à la bibliothèque. Et j'ai dû produire aussi beaucoup de cartographies moi-même parce qu'il y avait des archives et des données présentes, sont des données coloniales, de l'époque coloniale, donc intéressantes en tant qu'archives, et c'est bien de voir ce qui a été produit, mais quand même d'un certain point de vue. Donc pour créer un discours autour de ces questions de la colonisation, au-delà évidemment d'auteurs, en tout cas à l'époque que j'avais en tête, comme Samia Hennie, c'était compliqué d'avoir des exemples et des données un peu problématisées. Comme quatrième obstacle, ce que j'ai en tête, c'est le contexte historique de pandémie, où on a commencé donc début 2020, et on a travaillé pendant 2 ans sur ce livre, où il était impossible de se déplacer en Algérie. Au début, c'était fermé, ensuite les billets étaient beaucoup trop chers. Donc pour revenir, pour confirmer certaines infos, pour peut-être reprendre des photos, pour revoir des bâtiments qui ont été abordés et tout, c'était impossible. Donc il a fallu se baser sur ce qu'on avait sur place ou accessible depuis Internet, quoi. Donc, lorsque j'ai voulu étudier Alger lors de mon mémoire de troisième année, mon titre c'était Alger laboratoire d'architecture. Et à l'époque, j'avais un regard assez peu politisé sur les questions de colonisation, et donc j'étais encore arrêté sur à quel point c'était incroyable que Alger soit un laboratoire d'architecture. Et je voulais rentrer dans le détail un peu de comment Alger, en tant que colonie de peuplement française, avait été un laboratoire d'architecture, et comment il y avait eu un mélange incroyable de civilisations, d'époques architecturales, de bâtiments, et comment l'architecture moderne s'était vraiment épanouie. Voilà. Et en fait, j'ai essayé de faire un texte autour de ça, et en le présentant au professeur, chacun m'a un peu redirigé vers un autre professeur, et en fait, les réactions que j'ai pu avoir de professeurs assez connus dans le milieu de la recherche en théorie de l'architecture, c'était limite en détournant la tête et en mettant une main pour se protéger de ce que je proposais comme idée. Moi je ne connais pas ces sujets, je ne suis pas la bonne personne pour pouvoir en parler, pour pouvoir vous aider, vous encadrer sur ce thème. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas voulu me suivre sur ces sujets, selon moi ? Les personnes qui ont été enseignants pendant que j'étais à l'école sont des personnes qui, sans doute, ont un lien avec les colonies qui, aujourd'hui, les mettent mal à l'aise, et qui fait qu'elles n'ont pas vraiment réglé leur rapport à la colonisation. Je pense qu'elles sont prises entre un regard nostalgique, du racisme latent envers, entre guillemets, les indigènes, une vision très surplombante qui vise à plutôt mettre en avant les bienfaits, entre guillemets, de la colonisation. Il y a un regard très révisionniste, entre guillemets, de la colonisation de la part de ces personnes-là, du fait de leur génération assez vieille, disons. Ça, c'est peut-être une hypothèse. Et c'est aussi des personnes qui sont venues enseigner en Algérie pendant les années 70, pour certaines. Bon, en Algérie, il y a eu une volonté d'arabisation de l'enseignement, de renforcement d'identité arabe et tout. Et donc, tous ces profs qu'on importait de l'Europe ont été assez rapidement mis de côté et expulsés. Et donc, je pense que mes profs faisaient partie de cette génération-là qui était venue en Algérie dans une idée d'enseigner. Et ils se sont dit, mais comment osent-ils nous mettre de côté alors que c'est nous qui leur apportons le savoir ? C'est peut-être un peu schématique, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette vision-là qui explique qu'aujourd'hui, quand on veut parler, quand un Algérien ou une Algérienne ou quelqu'un issu des colonies ou une personne racisée qui vient d'un pays anciennement colonisé veut parler de sa culture en lien avec l'architecture, eh bien, tout de suite, il a assigné à ce rapport un peu très surplombant du colon colonisé. Il y a une reproduction d'un rapport de domination qui vise à mettre de côté le sujet colonial parce que quelque part on trouve que c'est inférieur, que c'est pas noble, que ça ne mérite pas d'être regardé ou d'être étudié. Une des autres hypothèses, c'est aussi assez clairement l'homogénéité du milieu des enseignants et aussi du milieu des élèves. Quand on regarde un peu, c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui, je dois l'admettre. Mais moi, quand je suis arrivé en école d'architecture, j'étais déjà le seul Algérien venant d'Algérie. Il y avait quelques personnes marocaines, mais clairement, j'en étais vraiment en minorité venant du Maghreb. Très peu de représentations, nord-africaines en études d'architecture, à l'époque où j'y étais en tout cas. Un corps enseignant essentiellement constitué de personnes blanches d'un certain âge, en majorité des hommes. Donc le côté minoritaire, je pense, c'est aussi une deuxième raison. Notre ambition, par rapport à l'écriture de ce livre, c'était de dépasser la dimension descriptive, factuelle et étudiée sous l'angle stylistique et formel, et de politiser l'architecture et de proposer une dimension historique, sociale, de pouvoir pousser les étudiants à se poser des questions de l'ordre du politique au sein même de leurs études d'architecture et de prendre conscience que l'architecture peut être un outil pour coloniser, mais peut être aussi un moyen de décoloniser. L'envie, c'était aussi de décoloniser les ressources existantes que l'on peut trouver, notamment sur Alger et sur l'Algérie, dans les écrits d'architecture. C'était de sortir de ce regard très occidental, avec des relents coloniaux souvent qu'on peut trouver dans les écrits d'architectes qui parlent de l'Algérie, d'architectes occidentaux français, et de proposer un regard situé, un regard contemporain, et qui permettent aussi de décoloniser le discours. Quoi.
Ce livre, et plus généralement la maison d'édition, elle poursuit un objectif politique qui est de produire du savoir, comme toute maison d'édition, et de produire du savoir d'une certaine façon, avec une attention portée au travail collectif, à l'histoire coloniale et à une réflexion critique sur la matrice coloniale de la modernité. Il y a vraiment au cœur de tous nos livres le lien entre modernité et colonialité. Archiver tous ces travaux, toutes ces réflexions qui se font par des associations, des collectifs, réunis dans un objet, dans un livre qui va pouvoir vraiment voyager, durer dans le temps, vraiment être une brique dans un édifice de pensée critique qui émerge en France et qui est plus que nécessaire. Proposer des travaux qui répondent à des questions en dépit d'un contexte assez hostile à ce type de réflexion. Donc on veut contribuer à notre manière depuis le point de vue du livre, la production de savoir, de la recherche, de critiquer l'ordre du monde où on est, rappeler aux personnes qui ont cette envie qu'elles ne sont pas seules et fournir des outils, lui donner du corps, des informations historiques, défaire la désinformation sur certains sujets quand c'est le monopole d'institutions qui ont à cœur de ne pas reconnaître en fait certains crimes qui ont été commis par le passé. Élever un contre-récit face à ce récit national qui interroge le nationalisme, qui interroge le blanchiment de l'histoire coloniale et qui s'oppose à la normalisation de l'ordre colonial du monde. Quoi.
Ce podcast a été imaginé et réalisé par Sonia Théoc. Il a été enregistré à Marseille le 18 décembre 2024 et à distance entre Arles et Marseille le 6 janvier 2025. Un grand merci à Anis et Nesma pour s'être prêtés au jeu de l'interview et de mener ce travail pour une décolonisation de l'architecture.